à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Orient. Il est midi et voici votre point d'actualité avec vous, Souada Kermani. À la une de l'actualité en Syrie, un an jour pour jour après la chute du régime de Bachar al-Assad, des milliers de personnes manifestent à Damas pour célébrer la nouvelle Syrie. On fait le point dans cette édition avec notre invitée du jour, Garance Le Ken, journaliste et autrice spécialiste du Moyen-Orient et des questions mémorielles. Au Liban, les frappes israéliennes se poursuivent. L'Union européenne s'apprête à durcir sa politique migratoire. En Syrie, le président par intérim, Ahmed al-Shara, appelle les Syriens à s'unir pour rebâtir le pays après 14 années de guerre civile et plus de 5 décennies de régime Assad. En ce jour, les forces syriennes défilent dans les rues de Damas et les Syriens manifestent à Damas pour célébrer la fin de la dynastie Assad. Après les prières du matin à la mosquée des Omeyyades, Ahmed al-Shara, vêtu d'un uniforme militaire comme le 8 décembre 2024 lorsqu'il était entré dans Damas à la tête des forces rebelles, a salué les sacrifices et l'héroïsme des combattants. Au Liban, des rassemblements aussi ont eu lieu à Tripoli, Saïda et dans plusieurs villages du Hakkar pour célébrer le premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad. Au Liban Sud, un réveil de plus sous les bombes. Des forces israéliennes ont visé cette nuit les environs de Yaroun. Aucune victime n'a été déplorée. En Cisjordanie, 3 Palestiniens, dont un jeune de 18 ans qui a lancé des pierres, a été abattu hier par l'armée israélienne. Les 2 autres Palestiniens tués après une tentative d'attaque visant des soldats israéliens. Mais l'un des 2 hommes tués n'était pas impliqué dans l'attaque, a précisé Tsahal. Dans le reste de l'actualité internationale, à New York, des discussions entre les États-Unis, Israël et le Qatar ont eu lieu hier. 3 mois après la frappe israélienne à Doha, l'allié américain dans le Golfe, une frappe qui avait suscité la colère de Donald Trump. Le Qatar, médiateur dans la guerre à Gaza, nie tout soutien au Hamas. Donald Trump reproche à Volodymyr Zelensky de ne pas avoir lu la récente proposition américaine de paix pour l'Ukraine, une proposition mise sur la table il y a 3 semaines. Elle a aussi été présentée à Vladimir Poutine. L'Union européenne durcit sa politique migratoire. Les États membres réunis aujourd'hui à Bruxelles examinent des mesures. Il s'agit de créer des centres hors UE, de renforcer les sanctions contre les personnes en situation irrégulière, refusant de partir, et d'autoriser les renvois vers des pays dits sûrs. Bruxelles envisage aussi d'utiliser ses avantages commerciaux pour forcer les pays à accepter le retour de leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire européen. L'ONU dénonce un crime mondial face aux souffrances de millions de personnes et lance un appel humanitaire pour mobiliser 33 millions de dollars. Dans un contexte de coupe drastique de l'aide américaine décidée par Donald Trump, l'ONU a dû revoir ses ambitions à la baisse. Son chef des opérations, Tom Fletcher, déplore une époque de brutalité, d'impunité et d'indifférence. Merci à vous d'avoir suivi ce point d'actualité. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. Le premier anniversaire de la chute du régime Assad, l'homme qui a fait tomber Bachar el-Assad, le président syrien par intérim Ahmad al-Shara, a promis ce lundi de rebâtir une Syrie forte, digne de son passé et de son présent. Entretien avec la journaliste Garance Le Ken, autrice du livre Opération César, au cœur de la machine de la mort syrienne, publié chez Stock en 2015. On y trouve notamment le premier témoignage de l'ex-photographe de la police militaire qui a documenté les crimes du régime. Garance Le Ken s'est rendue 4 fois en Syrie depuis la chute du régime. Question, un an après la chute du régime Assad, les espoirs des Syriens ont-ils commencé à se concrétiser? Garance Le Ken.
Le plus grand espoir qui est arrivé le 8 décembre 2024, c'est la liberté, c'est d'être être, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir parler de politique, et ça, c'est toujours le cas. Ahmed El-Sharé n'a pas instauré une dictature, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent manifester, donc ça, cet espoir, quelque part, il a été réalisé. Ensuite, l'état du pays au niveau économique est absolument catastrophique, et puis il y a tellement de choses à faire au niveau de la justice, au niveau de la question des disparus, des fosses communes. Il y a un côté un peu vertigineux. 50 ans de dictature assadienne ont vraiment détruit ce pays, mais pas juste physiquement. Il y a des traces mentales, des traumatismes, et ça va mettre beaucoup de temps pour se résorber.
Des traces mentales, des traumatismes, dites-vous, des enfants notamment qui ont été volés, ça vous l'avez constaté, vous l'avez documenté, c'est aussi un élément très important.
Oui, alors ce qui est intéressant aussi dans ce sujet des enfants volés, c'est que jusqu'au 8 décembre, on savait que des enfants avaient disparu, mais personne ne parlait de ce sujet-là parce que, d'abord, on ne pouvait pas en parler librement, évidemment, en Syrie. À l'extérieur, c'était pas forcément la priorité, et aussi, c'est un sujet extrêmement tabou puisque la plupart de ces enfants qui ont disparu, ils ont disparu quand l'arrestation des femmes en Syrie est un sujet tabou puisqu'une partie d'entre elles ont été violées et que, voilà, c'est un sujet extrêmement délicat à aborder. Mais une fois que le régime est tombé, on a vu tous ces images de Syriens qui sont allés dans les prisons pour essayer de retrouver leurs proches, mais aussi ces dizaines de familles qui sont allées dans des orphelinats où ces enfants avaient été emmenés, parce qu'en fait, une partie de ces enfants qui ont disparu, ils ont été arrêtés avec leur mère au moment où leurs mères ont été arrêtées, et ils ne sont pas restés dans les centres de détention. On les a envoyés dans des orphelinats. Une partie d'entre eux ont été rendus aux mères quand ces mères ont été libérées, mais une partie n'ont pas été rendues.
Donc une partie d'entre eux ont été adoptés, par exemple ?
Alors, c'est ce qu'on suppose. C'est-à-dire que les plus petits, ils ne sont pas dans les orphelinats. Les orphelinats ont ouvert leurs portes, ils n'y sont pas. Donc il faut bien qu'ils soient quelque part. Donc on présume qu'ils ont été égales. Mais pour l'instant, on ne sait pas, en fait. C'est des enquêtes qui vont durer extrêmement longtemps.
Et vous parlez d'enquête, cela fait partie de ce chantier titanesque qu'est la justice transitionnelle, hein, ce long processus, cette mission du président syrien.
Alors, la justice transitionnelle, c'est vraiment une des priorités. Et c'est là où on s'aperçoit qu'à travers ce sujet-là, on a du mal à comprendre où vont les nouvelles autorités. C'est vrai qu'il y a un comité qui a été établi pour juger des crimes, mais seulement des crimes du régime syrien, alors qu'on sait que les rebelles armés ont également commis des crimes, pas dans les mêmes proportions évidemment, mais des rebelles armés et même HTS, donc l'ancien mouvement du président actuel, a commis des crimes. Mais aussi, regardez, ils ont créé un comité pour ces enfants disparus. C'est très bien. J'y suis allée en novembre. Ce comité qui a récupéré énormément de documentation, des orphelinats, des centres de détention où étaient ces enfants, ils n'ont pas un ordinateur. Mais c'est vraiment ça. Ils les archivent à la main. Donc, vous imaginez le temps que ça peut mettre. Enfin, quand j'y suis allée, je n'arrivais pas à le croire, quoi.
C'était Garance Lequen, journaliste et autrice du livre Opération César au cœur de la machine de mort syrienne, publié chez Stock en 2015. Elle était l'invitée ce matin de François-Xavier de Calonne sur Radio Orient. C'est la fin de votre édition. Merci de votre écoute. Merci beaucoup à Mohamed Bizri pour la réalisation. Excellente suite des programmes sur Radio Orient.